חיים. חיים. Sûrement, tout le monde ici présent est au courant pourquoi on est là ce soir. On va essayer d'expliquer en quelques mots. Dans tous les cas, quand des juifs se rencontrent, on dit d'abord Shalom Aleichem. C'est le salut. Les chassidim, on dit les Chaim. On dit Shalom Aleichem et on dit les Chaim. Déjà en général, la plus forte raison quand on se retrouve pour une occasion, pour un événement très spécial, très particulier, et important, fondamental. Alors c'est sûr qu'on se dit d'abord les Chaim. Chacun va prendre son verre, on va dire les Chaim, comme aujourd'hui c'est un jour où c'est la Chalat, la Nesiut du Rabbi. Nous sommes rentrés dans la 7e génération. On verra tout à l'heure l'explication. Que tous les nianimes que le rabbi nous demande se réalisent et qu'on voit la Géoula Shléma avec Aaron. Chaim, Chaim. Déjà, la première chose, quand on se retrouve, on se rencontre, c'est pour se donner des bonnes nouvelles, pour annoncer des bonnes nouvelles. Comme toute la terre appartient à Kadosh Baruch Hu, nous sommes tous au même endroit, surtout quand on est en France, on est du même pays. Et si on est des deux extrémités, je veux dire du sud de la France de l'autre côté, nous avons évidemment non seulement un point commun, on a tout est commun entre nous. Une bonne chose qui arrive à l'un et concerne tout le monde. Donc ça va nous réjouir tous. C'était pour vous passer un bonjour pour tous les chassidim, les juifs de la Côte d'Azur. Et particulièrement un bonjour dans un sujet concret. Le rabbi dit toujours que Maase Waika, l'action c'est le plus important. Bien sûr, il faut parler, il faut réfléchir, il faut faire beaucoup de choses. Mais ce qui compte, c'est l'action. Et l'action, en général, c'est toujours toute action que dans la vie est concrète. Quand on parle de l'action particulièrement, évidemment, il s'agit de l'action des mitzvot que nous pouvons faire, que nous voulons faire. quand je vois où on nous demande. Parmi les mitzvot, il y en a 613. De nos jours, sur les 613, il ne reste pas grand-chose possible à appliquer, puisque à part les 365 négatifs, c'est interdit de faire ce qui est interdit, mais ce qu'il y a à faire positif, il ne reste que 86. Parmi elles, les mitzvot fondamentales, on n'a pas toujours l'impression que c'est fondamental, que c'est essentiel, mais effectivement, c'est le fondement même de la maison juive, de la famille juive. Tout simplement pour vous dire que ça, une introduction, que hier soir, on avait un grand dîner de gala à Juan-les-Pins, au casino, hein, je ne sais pas qui l'a donné gracieusement, pour la construction d'un mikvé. Un mikvé concret, un mikvé bien sûr nécessaire pour la vie juive. Tout le monde le sait que dans une communauté juive, une famille juive, il y a le mikvé, donc une mitzvah fondamentale qui permet d'avoir une pureté dans la famille. Chaque chose dans le judaïsme commence par la tahara, par la kedusha, par la sainteté. Le mikvé, c'est une des choses essentielles, fondamentales, sans rentrer dans le côté négatif, interdiction qui peut se passer quand cette mitzvah n'est pas faite comme il se doit. Et donc, dans cette ville, dans cette région, je dirais, hein, parce que tout le monde a fréquenté, presque tout le monde, c'était un endroit où on venait que pour des vacances. Et depuis les vacances, pour les petites communautés locales, mais la plupart des gens venaient pour l'été, vous savez, ceux qui viennent là-bas, pour comme l'a dit hier, Serra, on connaît. Lui, pour lui, j'ai les pins, ça veut dire les sables, la mer de l'Afrique du Nord, et l'ambiance, etc. Et voilà, depuis quelques années, il y a un Beit Chabad qui a été créé là-bas, à part les activités. Et juste une petite chose intéressante de vous dire, depuis maintenant, Chabad sur la Côte d'Azur, ça va faire cette année 30 ans, on allait chaque été, avec des tentes, certains Bachourim étaient peut-être des... Non seulement pour les gens qui sont là, toute l'année, pour les gens qui viennent en été, qui sont obligés d'aller à Nice ou à Cannes, mais surtout, et c'est ça le plus important, c'est de permettre à de nouvelles personnes qui ne le font pas parce qu'elles n'ont pas la commodité de l'avoir à côté, de pouvoir faire ça. Alors, on va pas rentrer dans la discussion halakhique de si la mère c'est valable. C'est valable. Et d'ailleurs, je l'ai mentionné hier, le premier mikvé, le plus grand mikvé, c'est la mer. C'est marqué dans le verset de la Torah au début de la création du monde, « Ul mikvé hamayim kara yamim ». Au mikvé, qui veut dire au rassemblement de l'eau, Dieu a appelé yamim les mers. Donc la mer, avant de s'appeler la mer, yam s'appelait mikvé. Donc on est dans un grand, grand mikvé. Et bientôt, justement, on va vivre l'ouverture du mikvé, hein, Kriyat Yam Suf. Alors c'est vrai, les gens qui ne vont pas, c'est justement parce qu'on ne leur a pas proposé, parce qu'il n'y a pas des conditions comme ça. Bon, tout le monde va à la mer, mais ce n'est pas dans le sens. Donc, maintenant, on va au Hachem. Le Nes, le miracle, c'est que il a été, c'était prévu pour le Yud Shvat, et dans les meilleurs rêves les plus roses, on avait pensé à un certain montant, une certaine somme. Et au départ, c'était extrêmement difficile, ça ne démarrait pas. Et on s'est finalement presque résolu à descendre le but recherché. Et finalement, à la fin, on a eu plus que le double du prévu. En marche, un S, beaucoup plus que le double. remarquer une chose, ou qu'on voit une chose extraordinaire. C'est d'abord, ça doit réjouir tout le monde, parce que c'est une action qui concerne tous les juifs, pas seulement parce que chacun peut être un jour amené à avoir besoin de cela, lui et ses enfants, ses enfants. Mais simplement, quand on sait qu'un juif va pouvoir accomplir une mitzvah, pour nous les juifs, c'est une réjouissance. Il y a quelque part un endroit où on peut faire une chose extraordinaire. Mais à part... C'est vrai, ça nous concerne tous. Mais il y a cette notion de sanctifier le monde. Nous nous sommes tous concernés dans le sens que Akadosh Baruch Hu, il a donné à Israël Torah en Mitzvot pour les Akot d'Israël, pour nous purifier, pour nous élever et pour préparer le monde à la Géoula. Et toute purification, mitzvah qu'on fait, c'est une purification. C'est une kedusha qu'on amène. Et quand il s'agit d'une mitzvah comme le mikvé, la purification est évidemment encore plus grande. Alors ça, c'est une bonne nouvelle qu'on doit remercier à Kadosh Baruch Hu, et cette nouvelle que je voulais partager avec vous, puisqu'elle est toute fraîche, elle est à partir d'hier soir, donc dès que ça sera matériellement possible, et le plus rapidement possible, ça sera fait Mir Sachem. Vous êtes déjà tous invités à l'inauguration. Espérons que ce soir. J'ai dit hier que la question du temps, donc nous trouvons le temps que le béton sèche bien. Parce qu'un mikvé, il faut qu'il soit absolument étanche. Si on commence à mettre des carrelages tant que le béton n'est pas sec, c'est pas valable. À part ça, le temps ne compte pas. On peut mettre 1000 personnes, chacun fait une chose et en quelques heures, le mikvé est prêt. Seulement, bien sûr, il faut attendre le temps matériel pour que ça soit, que ça tienne. Alors, ça c'est une bonne nouvelle. Cette nouvelle, elle est particulièrement liée avec le Shvat et avec le contexte de la paracha. Si on ne sait pas s'en sortir, qui va le retirer? Hachem peut faire toute situation. Donc, un juif il prie. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie, il demande à Hachem, il supplie. Il crie à Hachem. Et c'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a commencé à prier Hachem en criant. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Ma titzak elai. Pourquoi tu me cries à moi? Ça dépend pas de moi. Comment? C'est-à-dire, alors à qui on prie, c'est pas Hachem. Ce qui aura compris. Hachem dit non, ma titzak elai. Pourquoi tu me cries? Ne crie pas. Ça veut dire quoi? Alors quoi? Alors Hachem dit non. D'abord, elle dit Israël, il faut avancer. Mais aujourd'hui, Mitzvat, c'est plus connu par le judaïsme. Partout, dans chaque coin du monde, il y a une vie juive qui aussi sait ne pas ressusciter, de créer de nouveau. Mais il ne faut pas oublier qu'avant cela, il y a la première partie du Yud Shvat, c'est la Shmuda, la Shmuda, et c'est une partie qui part du précédent Rabbi Kodabou, sur le Yosef. Que là, dans son temps, ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. On avait besoin de Messirut Nefesh. On avait besoin du don, du sacrifice de soi. Une histoire que j'ai entendue de l'un de mes maîtres, Rabbi Elkan, le frère de Rabbi, je crois connu, que pour le Rabbi précédent a créé un réseau de Yeshiva, de mikvé, de permettre à des juifs de travailler sans transgresser le Shabbat et Yom Tov, de manger kasher, évidemment clandestinement, car ceci était un risque de vie ou de mort. Si on attrapait un juif, enseignait la Torah des enfants, on l'envoyait en Sibérie s'il n'était pas pillé sur place. Ce n'est pas des histoires comme ça, des légendes. Personnellement, mes deux grands-parents, mon grand-père maternel, qui était le chauffeur de Noël de la ville de Leningrad, qui était un autre, où il a fait cette activité de la ville clandestinement, a été arrêté à l'âge de 47 ans. Et trois jours après, il a été exécuté, fusillé dans le prison de Chalon. et lui, pas le seul, des dizaines, des centaines de racines ont donné leur vie pour la progression du judaïsme. Et quand un Melamed, un enseignant, était arrêté, emprisonné et envoyé en Sibérie ou fusillé, le lendemain il y avait un autre à sa place qui arrivait pour le remplacer, sachant qu'il lui aussi risquait ça. Et des dizaines comme ça. Donc le rabbi précédent avait créé des Hadarim, des écoles juives, clandestines, dans des cadres, pour étudier en cachette. Et évidemment, ils étaient constamment poursuivis, recherchés par le KGB. À l'époque, c'était l'NKVD, et avant ça, c'était le GPU. Chaque fois, ils changeaient de nom, mais c'est la même chose. Et il y avait toujours quelqu'un qui gardait, on s'arrangeait pour avoir une deuxième issue quand on venait les chercher, parce que toujours, des fois, il y avait des petits dénoncés, des fois, ils attrapaient, les enfants devaient se sauver. Et un jour, ils étaient pris comme au piège, dans une cave, et les KGB ou le GPU tapent à la porte. Et les gens ont commencé à pleurer. Les enfants pleuraient, qu'est-ce qu'on dit ? Alors, le rabbi leur a dit, le maître leur a dit, pourquoi vous pleurez ? On a peur. On dit, oui, mais en pleurant, on va se faire arrêter. Il faut agir. Il faut trouver une issue. Pleurer, ça ne va pas nous sauver. Il faut faire quelque chose. C'est ce que Hachem dit à Moshe Rabbeinu. C'est vrai, il faut prier, il faut crier, il faut pleurer. Mais là, c'est le moment d'agir. Qu'est-ce qu'il faut agir ? Mais Isao, il faut voyager. Avancer. Mais avancer où ? Dans la mer. Ça voulait dire se jeter à la mer. Alors est-ce qu'on a le droit de faire ça ? On ne sait pas. Dieu n'a pas dit que la mer allait s'ouvrir. Il a dit avancer. Agissez. Ce n'est pas le moment de prier, c'est le moment d'agir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Israël était dans le doute. Il y avait un certain très connu, Nachshon ben Amminadab. Nachshon ben Amminadab, un homme qui était le prince de la tribu de Yehuda, lui, il est allé dans l'eau, il s'est jeté à l'eau. Il a commencé à marcher, Baomaï Madna, l'eau lui est arrivée au narine. Et quand l'eau lui est arrivée au narine, là, la mer s'est fait. Mais lui, il n'avait pas pensé un seul instant. Les Bnéissans n'ont pas soupçonné qu'on était devant le miracle de l'ouverture du Créatican. Non. Simplement, on savait, Moshe Rabbeinu l'a dit qu'il faut avancer, Hachem l'a dit, on avance. C'est pas qu'on est allé faire Missi Rout Nefesh. On est allé dire, tiens, je vais me sacrifier pour le judaïsme. Pas du tout. Moi, Dieu m'a dit qu'il faut que je vais maintenant tout droit vers le mont Sinaï. En sortant d'Égypte, on allait vers Matan Torah, vers Har Sinaï. Maintenant, sur Har Sinaï, en route, il y a un ravin, c'est pas mon problème. Moi, Hachem m'a dit, avance, j'avance. Il y a une mer, j'avance. C'est pas que je vais me rassurer à me suicider ou je vais faire Messie Rotef, pas du tout. C'est pas ça, Messie Rotef, c'était ça, c'est Rabbeinu Akiva. Abraham Avinu, il est allé sacrifier son fils. Hachem lui a demandé, il avait rencontré des obstacles, une rivière, des sables mouvants. Ça n'a pas empêché. Et dès qu'il arrivait, ça disparaissait. Parce que la question, elle n'est pas savoir si je vais me sacrifier la vie. Ce n'est pas ça le calcul. Le calcul, c'est qu'on a un projet. On a un but à atteindre. On a un objectif. On le fait parce que on sait que si Hachem nous dit de le faire, c'est qu'on va y arriver. Et quand le rabbi précédent a envoyé les shluchim, les gens qui pouvaient faire tout ce travail-là, il savait. Peut-être que pour eux, c'était un risque. Mais ce n'était pas la question, on ne pouvait pas savoir, on n'allait pas dire tiens je veux faire. On allait parce qu'on avait un objet, un objectif, on avait une shlichut, on avait une mission à accomplir. Alors on devait aller, on devait avancer, on devait progresser. Et la preuve, on avait la mer devant ça, bien c'est ouvert. La mer n'était pas un obstacle. La mer ne peut pas être un obstacle. La nature ne peut pas être un obstacle pour nous empêcher de faire ce que chacun. Quand un juif il dit, ah moi si je veux faire un Shabbat, mon affaire va couler. Alors, comment ? Tu crois qu'Hachem, c'est pas ça ? C'est plus Racham qu'Hachem. Si Hachem nous a dit de faire, d'arrêter de travailler Shabbat, et toi tu as une super affaire, tu dis, ah moi je suis plus Racham, si je vais arrêter, ça va couler. D'abord, qui te dit ça ? Et deuxièmement, si ça marche pas, c'est que ce n'était pas ton affaire pour toi. Et ça, il faut savoir que parce que il est impossible de concevoir que la nature soit un obstacle à la création divine, à la volonté d'Hachem. Et c'est ce principe-là que le rabbi essaie de nous inculquer. C'est pas qu'on a un obstacle qu'on doit surmonter. C'est inconcevable que la création divine soit en contradiction avec la volonté divine. Si on arrive à réaliser, à intégrer en nous le principe que tout c'est Hachem qui fait, et il n'y a rien d'autre que lui, on n'a même pas de problème. Mais tout ça, c'est bien quand c'est théorique. En pratique, c'est pas évident. Alors il fallait qu'il y ait Nachshon qui se jette, et quand lui s'est jeté, allez, tout le monde a suivi la messe. C'est tout le long de notre histoire, c'est théorique. Pas toujours comme ça. Le grand chassid d'un Mashpia, c'est-à-dire celui qui enseigne Rav Nissan Lomanov, qui est le compteur des Shiva de Brunois, qui a déjà appris, il raconte cette histoire qui est très connue. Dans le désert, dans le steppe de Sibérie, etc., il y a une épouse, des grands animaux comme des yaks, des rennes, cette famille-là. Eux, ils vont là-bas, ils migrent quand il y a un changement, ils migrent, ils voient un changement de climat, etc. Et des fois, il y a des rivières, ils rentrent dedans. Et des fois, le troupeau, ils sont tellement de milliers, ils peuvent pas. Les premiers, ils poussent, derrière, ils poussent les premiers, ils tombent, ils se noient. Et les autres, ils vont après, ils marchent dessus, ils savent pas qu'ils sont là, qu'il y a des autres qui sont morts. Ils croient que c'est un peu. Et de là, le tsar de Russie, et il a, quand il y avait la guerre du Japon, la Russie et le Japon en 1905, il y avait des rivières à traverser. Je ne sais pas que c'est comme aujourd'hui des ponts jetables, etc., des ponts modernes. Donc ils obligeaient les soldats à se jeter à l'eau. Et les premiers ils se noyaient. Et ceux qui après ils se noyaient, les autres ils se noyaient. Et finalement, les corps sont tassés. Et à force de marcher, ils faisaient un pont. Ceux qui venaient derrière, ils marchaient, ils ne savaient pas faire. Et ils croyaient qu'ils marchaient sur un chemin droit, un chemin tracé. Mais en fait, c'était sur le corps des hommes. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre. Mais nous, aujourd'hui, c'est pareil. Nous, Baruch Hashem, aujourd'hui, tiens, on a une yeshiva, je ne sais pas s'il nous voit, nous entend, le chalier de Montrouge, David, nous, le chalier, s'il nous voit, nous entend, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est clair, avant, on pouvait se douter si Hashem peut nous voir partout, nous entend partout. Tout ce qu'on dit, enregistré, etc. Il fallait de la Emouna, le rabbi dit, il fallait croire ça. C'est-à-dire à quelqu'un qui vient du Moyen-Âge, où il y a 100 ans, je veux dire, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu parles, c'est vu par tout le monde, et à enregistré. Je vais m'enfermer, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Où on se trouve, on croit qu'on vient pour un groupe de parcourir, mais finalement, tout le monde te regarde. Tout le monde te calcule tes faits, tes gestes. On ne peut rien cacher. Bien, un jour, le rabbi m'a donné un yachidout, j'ai écrit l'an demi, faire des questions, etc. Et j'ai écrit, quand on rentrait chez le rabbi, on écrivait sur un papier ces questions. Et certaines questions, je me demandais s'il fallait écrire ou pas, et comment, c'est pas évident. Dans certaines questions, j'ai écrit, et d'autres, je les ai uniquement pensées. Bon. Je n'ai pas osé les faire. Et après que le rabbi me dit, ça qu'il me dit comme ça, actuellement. Là, je vais te répondre sur ce qui est écrit, sur ce qui n'est pas écrit, sur ce qui aurait dû être écrit. Le fanav, le fanav Hashem, c'est tout. Donc, et vraiment des choses que je ne veux pas écrire, il a répondu clair. Mais sur des choses que j'aurais dû écrire. Bien aujourd'hui, avant c'était la Emouna, aujourd'hui c'est Galou Yadoua. Ce qu'on fait ici dans ces Rabahamot, le monde entier regarde celui qui veut. Chaim. Kadosh Baruch Hu nous aide, que on a un sfout extraordinaire, on verra tout à l'heure, je l'ai dit au début, quand on prend du marché, on ne peut pas parler par rapport à des choses. On a rappelé qu'on est une génération exceptionnelle. On est la septième d'or à Chimie. On est une génération spéciale et unique. Et c'est vrai, on fait des choses extraordinaires. Il ne faut pas oublier que le chemin est tracé parce qu'avant nous, il y avait des gens qui ont donné leur vie physiquement, matériellement. Toute notre histoire, le peuple Israël est appelé Koma Achat Shlema. Nous sommes un seul corps. Nous, on a cette chance d'être à la fin. On nous appelle Ikveta de Mshicha, les talons du Mashiach, hein, le talon du pied, c'est la plante des pieds, c'est la partie la plus basse, c'est la partie qui touche le sol. Donc c'est pas la partie intellectuelle, pas la partie intelligente, pas la partie belle, rien. Mais sans la plante des pieds, la tête n'avance pas. Et tout le peuple Israël, dans toute son histoire, doit rentrer dans Eretz Israël. Quand Mashiach vient, tout le monde va rentrer ensemble, depuis les avot, les patriarches, tout le monde va rentrer ensemble, les têtes, etc., les tzadikim. Qui les porte? Nous. Nous, on est équitable, nous, on est équitable. Imaginez le mérite. Voilà. Tout repose sur nous. Alors, si nous, on stagne, on s'arrête, on n'avance pas, et il ne peut pas avancer, il nous attend. Une tête seule ne peut pas avancer. Elle a besoin des pieds. Et des pieds en bonne santé, c'est la plante des pieds. C'est le bas. La plus basse, la plus. Où il y a moins de vitalité, où il y a moins d'énergie, encore moins d'intelligence, c'est pas important. C'est celle-là qui va porter toute la stature. Alors on est dans exceptionnel. Alors il faut qu'on avance. On va dire les chaïm un petit peu, hein, pas beaucoup, hein, en tout le cas un petit peu, mais les chaïm. Hein? Hein? Passez, passez, il y a un esprit qui veut les chaïm, ben on lui donne pas. Hein? On ne voit pas finalement. Bon, mais le Chaim, on peut dire comme ça longtemps. Chaim, le Chaim. Comme on est une génération exceptionnelle, un jour unique et exceptionnel, même si ce jour est fini, parce qu'on est déjà Yudal Shvat, le rabbi dit qu'il va Kodoshim Halayla Olech Hayom. Pour la Kdusha, la nuit suit le jour, même la nuit, dans le Korbanot des sacrifices, etc. Donc nous sommes encore Motsai Yud Shvat. Et c'est un jour, comme le rabbi le qualifie, Yom Hagadol Vehakadosh, un grand jour, un jour saint, un jour Kadosh. Et c'est basé sur un verset qui dit, Kol Asher Yavor Tachat Hashav Vet Asiri Yekodesh. Tout celui qui passe, on devait faire à l'époque le maaser, la dîme des animaux, le Beit HaMikdash, à l'époque du temple, on devait donner la dîme, le maaser aux animaux, on le mettait dans un enclos, et on sortait un après l'autre, et le dixième, il le touchait avec un bâton peint, couleur rouge, il était Kodesh, après il devient Korban. Asifri et Kodesh. Shavet, c'est le bâton. Et de là vient le mot Shvat, le nom de ce mois. Et tout celui qui passe dans Shvat, Asiri, le dixième, il y est Kodesh. Le dixième, il est Kodesh. C'est un passage clair. Yud Shvat, c'est un Kodesh. Avant, on ne savait pas. Quand ça s'est avéré, ce qui s'est passé maintenant, on a compris que Yud Shvat, c'est un Kodesh. Un jour exceptionnel. Qu'est-ce que ça veut dire Kadosh? Kadosh, ça veut dire Mouvdam. C'est pareil, différent. C'est un jour où on peut prendre encore des forces extraordinaires. Chaque jour, il a sa faculté, il a son action spécifique, comme Yom Yom a la vérité. Chaque jour, Hachem que Hachem nous donne, il a des lumières spirituelles, des forces spirituelles. Il y a des jours où on peut. Ça, c'est le jour d'aujourd'hui. Alors, il faut dire les Chaim, il faut puiser dans les forces. Il ne faut pas s'arrêter à ce jour-là. C'est qu'un départ, hein. C'est un commencement pour continuer. Chaim. Ah, Chaim. Thank you.
Reyes.
Même quand on mange, je le vois aussi sur internet, quand on mange aussi. Hein, arrêtez, je ne vous laissais pas le temps de manger. C'est mon dîner. Alors, santé, je sais ce que manger. L'chaim, l'chaim. Allez, bon, je vais chanter. חיים לחיים. Genre, et en vérité, on sait ce que vous venez de chanter maintenant, le Baal Shem Tov, et monter le jour de Rosh Hashanah dans le Hechal, dans le palais du Mashiach, c'est-à-dire qu'il a un palais en haut. Il est allé au palais Mashiach et il a demandé carrément quand est-ce que vous allez venir. Et ma taille ka atema. Quand est-ce que vous allez venir? Et Mashiach répond. Mashiach foutu. Quand tes enseignements, vont être diffusés à l'extérieur, le monde entier va être au courant de l'enseignement de Baal Shem Tov. Pendant des générations, on s'est limité à enseigner la chassidut, à transmettre les connaissances, les enseignements, les discours des rabbis, des tzadikim. On le faisait comme ça pendant des générations. Arrivée notre génération, qui est la septième, on va voir pourquoi on est la septième, tout a changé. Le système a changé. Mais pas qu'il a changé dans le sens d'une nouveauté. On a inventé une nouvelle chose. On a seulement atteint un niveau supérieur dans la progression de l'avènement de la chose. C'est-à-dire, pour dire clairement, avant la ma'avatzat ha-mayanot chutza, la diffusion des sources à l'extérieur faisait essentiellement par l'étude. Donc celui qui ne savait pas étudier, celui qui ne savait pas lire, n'avait rien à faire là-dedans. Il n'était pas capable de faire partie de ceux qui ont le mérite de faire diffuser les enseignements. Venu le rabbi, à partir de Yutchvat 1900, il a changé la donne. Il a dit que la fatsat mayanot, la diffusion des sources, passe aussi à travers l'action, à travers les mifsaïs. Quand des jeunes gens de Bakhroun, peut-être eux-mêmes, découvrent le judaïsme, vont vers un autre juif, on lui dit, vous avez mis les tefilines aujourd'hui? Oui, non, pourquoi, comment, ça dépend de différentes choses. Et il le fait, même s'il ne le fait pas. Il a contribué, il a agi dans la diffusion. Et donc, avant, c'était limité à ceux qui avaient les capacités d'enseigner, d'étudier, de comprendre. Et aujourd'hui, c'est devenu la possibilité de tous. Pourquoi ça? Parce que on a changé, parce que les temps sont différents. Il y a des jeunes qui nous disent aujourd'hui, ah, c'est devenu tout le monde a changé. Parce que moi je me rappelle, il y a 30, 40 ans, c'était différent aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a changé. Ah bon? Qui a changé? Dieu a changé. La Torah a changé. Le peuple d'Israël a changé. Le monde, il a peut-être changé, mais qu'est-ce qu'il a à faire avec nous? Nous, on a un derrière. Alors qu'est-ce qui a changé? Dans un mahamar, dans un discours que le rabbi précédent a écrit, spécifiquement, spécialement pour son jour de Yilouna. Le rabbi précédent, le Muftar Yudchvan, la veille, le 9 juin, quelques jours avant, il a écrit un discours. On a fait dans l'article de Mama. Il a écrit sur 20 chapitres. Ça s'était en plusieurs fois. Le rabbi actuel qui était à droite, qui était l'éditeur de l'édition, a pris sur lui, il a fait l'édition, l'imprimé, pour qu'on étudie le 10 Shvat. Le 9 Shvat, quand c'est revenu de l'imprimeur, il a amené un exemplaire. Il a fait ça. On va étudier. vrai que c'était le meilleur ça et tout ça quand même. C'est pas une fête, c'est une fête, c'est pas mal. C'est vrai que c'est une fête, c'est pas mal. C'est vrai que c'est une fête, c'est pas mal. Mais il y a plein de rabaniers aussi, on n'a pas toujours des rabaniers, parce que ça. Quand le lendemain matin, Shabbat, à 8h30, on a un petit peu sur l'autre, c'était non seulement comme une sorte de testament, mais c'était surtout une consolation. Une consolation, c'est-à-dire que c'est pas simplement dire que quel bon, c'est la vie. Une consolation d'un cadre de fou, c'est-à-dire qu'elle remplace le vide. Et ce Mahama, il jette une lumière nouvelle sur l'approche même de la diffusion du judaïsme et du sens même de la connaissance de la compréhension. Ce Mahamar, est basé sur un passage, sur un verset de la Torah, surtout dans les communautés sfarades, tout le monde le connaît, « Bati legani achoti italia » pendant... Juste une petite anecdote, c'est vrai que chez Chabad, on ne dit pas. On a demandé au Rabbi, puisque Zalaman qui a fait le Moussa Chabad, toutes les communautés font chercher. Parce qu'elle a, c'est pas caractéristique, que Chabad. On lui a dit, pourquoi vous avez mis ça du sud, pourquoi vous l'enlevez, tout en sachant que quand on dit chercher, c'est un irite, c'est une grande foi en haut de l'histoire. Donc, on lui a dit, oui, mais on ne peut pas assister à toutes les fois. En tous les cas, on peut assister à cette foi, mon cher Hachérim. Mais là, il faudrait étudier le côté Torah. Le côté Torah, Shir HaShirim. Étudier ça et vous allez assister à une vraie foi. Et dans ce verset, Bati Legani Achoti Kala, je suis revenu chez moi, ma soeur, ma fiancée. Il explique que c'est Hachem qui dit ce verset au moment où ils ont reçu la Torah et après, quand on a reçu, on a dû se manifester, se présenter, ce moment de Mishkan. On a construit le sanctuaire dans le désert. Et il rapporte ce fameux Midrash qui nous dit qu'au moment de la création du monde, la résidence principale de Hachem, c'était ici-bas. Le roi Achelokim, Dieu était là. Il était là dans le monde. Le monde était un Gan Eden. C'était vraiment un endroit où c'était des bons vivre pour les hommes. Et là, il a mis un homme, un couple, un homme ou une femme, il a fait le robda en chambra, gardé, entrepotonné, c'est un délire. Bon, cet homme et cette femme, ils ont eu des épreuves, tout le monde, et ils ont fait en sorte que la Shrina, qui était présente ici, alors, Hachem, il a dit bon, sur terre, ils ne veulent pas de moi, je vais retourner chez moi. Shamaï, Shamaï va Hachem. Et il est monté au premier ciel. Qui est le plus proche de lui? Tiens, ça va. Ça suffit. Eh bien, il y a eu d'autres encore qui ont continué à faire d'autres erreurs, à faire des bêtises, etc. Le déluge, le Flaga, etc. Ceux qui ont fait la tour de Babel. Et au fur et à mesure, on renvoyait la Shrinat de plus en plus loin. Ce qui voulait dire qu'il y avait de moins en moins de révélations, de manifestations, de présence divine sur terre. Ouvertement, Hachem, sans rien ne peut exister, sans sa parole, mais d'une manière ouverte, on le voit. Et très très loin. Jusqu'au septième ciel. Et là, comme par hasard, entre guillemets, dans l'histoire, arrive un homme qui s'appelle Abraham Avinu, qui a l'âge de. Idolâtre. Ah, mes parents n'étaient pas religieux, parce que je dois faire moi. Et bien alors, Abraham Avinu le premier, ses parents n'étaient pas religieux. C'était le fournisseur des idoles, c'était le fabricant, c'était le premier juif intelligent qui a dit on va leur vendre du bidon, on va gagner de l'argent. Comme la pub, etc. Il a trouvé Nimrod, il a trouvé d'autres sots et d'autres, comment on dit ça, des nigauds. Ouais, mais bien sûr, sinon c'était pas le père d'Abraham. Il a trouvé, en anglais on a dit « a bunch of idiots ». Un paquet de nigauds, on va leur vendre des statues, ils vont nous payer de l'argent, on va se faire la fête. Alors, lui-même, il n'était pas aussi bête pour faire tout ça, évidemment. Donc, il a fait un paquet d'argent, mais il fallait qu'il joue le jeu, donc il est rentré dans la cour, parce que politiquement, pour vendre, il faut être un bon rentrer avec les politiciens, etc. Ça n'a rien changé, pareil. Donc, il leur a vendu des trucs, et Abraham, il a compris tout de suite, c'était un enfant juste, honnête, aimette. Il a dit, c'est vrai, c'est du business, tout ça, mais les gens, malheureusement, ils croient. Il ne faut pas leur laisser dans l'erreur, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tricher, il ne faut pas faire des choses qui ne sont pas justes. Donc, il a commencé jusqu'à ce qu'Hachem se fasse. Quand Hachem a vu Abraham, il a dit, tiens, c'est bon, je vais m'approcher de la terre. Donc, il est descendu du 6e, du 7e au 6e siècle. Arrivé après Yitzhak, il a continué à s'approcher d'Yitzhak avec ce qu'il a fait lui, avec les Bé-Hérodes, les puits qu'il a creusés. Qu'est-ce que c'est un puits? On enlève la terre qui bouge sur la source. Il n'a pas créé de l'eau. On ne trouve pas de l'eau. L'eau existe. Il suffit d'enlever ce qui enlève. Nous, on est plein de bien dans nous. Hein. Notre cœur est rempli de Torah Mitzvot, de Da'avat Hashem. Seulement, il faut enlever la croûte qui couvre. Il faut découvrir le Otsar Shirat Shabbat, le trésor de Dieu. Donc, Yitzhak le fait. Et Hachem dit, tiens, c'est mieux. Et Yaakov, ainsi de suite, Abraham. Quand tu arrives à Moshe Rabbeinu, tu donnes chance. Parce que maintenant, avec le père de Moshe, Abraham, Hachem, il se trouve au premier ciel. Maintenant, on va changer totalement la situation. On va changer de ciel. Le ciel, ça veut dire en français céleste, du spirituel. Et on doit faire descendre la Shrina ici bas sur terre. C'est plus la même chose. Parce qu'avant, c'était du 7e au 6e, 6e au 5e. Mais on était toujours dans le domaine du céleste, dans le domaine du ciel. Maintenant, on doit changer complètement la situation. On va passer d'un monde céleste et on va atterrir. On va atterrir littéralement, arrête, terre. On va passer du ciel sur la terre. Alors ça change. C'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Bien sûr, c'est Hachem qui l'a choisi. Hachem a décidé, hier et la chaîne. Et à partir de ce moment-là, il a permis à chaque juif de faire une fusion entre le matériel et le spirituel. Il va prendre de la laine d'un mouton, il va le transformer, il va faire des... C'est du matériel qui va être un support, qui va transformer un matériel. On va prendre du vin, on va faire tout le calèche, le chapeau, on sent tout le monde. On va faire des choses extraordinairement spirituelles, mais avec de la terre. Et ça, c'est uniquement Moshe Rabbeinu. Uniquement celui que Hachem a choisi, Moshe Rabbeinu, avec ses qualités, avec ses avantages, avec tout ce qu'il avait. En étant rentré dans la définition de la Kabbalah, de la Chassidut, qu'est-ce que c'est Moshe Rabbeinu, etc. Ça, le moment est le sujet. Donc, en tous les cas, seul Moshe Rabbeinu, même pas Machem. Quand Hachem lui a dit, va sortir le ministère, il lui refuse pendant 7 jours, il dit, Shlach, la vie, Shlach, on va chercher, il dit non. Pour la Torah, pour descendre, la Torah du ciel, c'est-à-dire des mondes célestes, surtout. Bien, l'histoire se répète. Et le rabbi précédent, c'est la 6e. Et le rabbi, c'est Torah Shvit, c'est la nouvelle. Et dans la 7e génération, c'est tout à fait différent des 6e. Pendant 5700 ans, plus que ça, depuis la création du monde, il n'y avait pas Internet. Les gens vivaient aussi. Il n'y avait pas le fax, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas... Et subitement, les derniers sont les révolutions. Tout a changé. Tous les dons ont changé. Tout a changé. Parce que, c'est lié avec ce qu'il dit le Zohar, la génération de... Elle a dit que maintenant, on va pouvoir prendre le gashmi, la matière, et on va le transformer en spirituel. C'était depuis toujours. Mais la forme de la matière d'aujourd'hui, la forme du matériel de notre monde, avec Internet, avec toutes ces choses que le monde moderne a le mérite d'avoir. Ce ne sont pas des inventions pures par hasard. C'est venu à un moment où on a besoin, et Hachem a permis aux hommes de découvrir ce qui existe et on n'a rien inventé. Toutes des choses naturelles, seulement on a su composer les choses. Même pas une création, c'est même pas une invention. On a découvert que le silice, le sable, il a une certaine énergie en lui. On a réussi à savoir comment canaliser et utiliser cette énergie pour faire la fonction. C'est l'emballage. Du coup, c'est ça, c'est l'habillage. Et dans cette génération, c'est pas par hasard. C'est le moment où nous, tous, qui avant, c'était donné aux grands, aux géants, aux rabbanim, aux tzadikim, de faire de sorte que la shrina, que Dieu réside dans chaque élément de la création et dans le monde entier, et même chez les non-juifs. Le rabbi, il a parlé de shlichut, un shliach qui vient dans une ville. Il n'a pas seulement les juifs à ramener la Torah. Il a la mission de ramener les noirs, les non-juifs, à cette mission. Aujourd'hui, le monde est mûr. Le monde est prêt pour ça. Nous devons être les supports, les émissaires, les shluchim, par lesquels le Rabbi va nous aider à réaliser cette action dernière qui consiste à faire descendre la Shrina ici. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Avant, il fallait étudier, prier, etc. C'est une grande action. Aujourd'hui, on fait descendre la Shrina dans le monde matériel. C'est l'action qui fait. Alors on va voir un juif, on va lui dire, écoute, que tu dis, l'investidra de la semaine, fais cette mitzvah, fais des choses matérielles, concrètes, simples. Mais ce n'est pas simplement dire, ah, parce que tu n'es pas fort, alors tu es sur ça. Non, c'est la même chose. C'est l'essence divine même qui s'habille dans la matière. Et seulement, il faut avoir la force de pouvoir la rêver. Et ça, c'est le mérite de notre génération. Nous avons pas choisi d'être en cette génération. On ne nous a pas demandé avant quand est-ce qu'on veut naître. Ça, c'est des choses qu'on se demande. En fait, on n'a pas de libre arbitre. Comment ? On a sûrement fini pour avoir du libre arbitre. Eh bien, non, c'est faux. On n'a pas le libre arbitre si on va habiter à Montrouge ou à Nice. On n'a pas le libre arbitre où on va être quand on va naître. On a le libre arbitre uniquement en ce qui concerne Torah. Faire dans leur temps. Tout le reste, c'est pas là au maktoum, c'est pas comme ça du tout. Dans tous les cas, mais Hachem mit à des guerres qu'on a, non, Hachem il décide pour chacun où il va habiter, qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie. Là où lui donne la liberté, ce qui est extraordinaire, c'est autant verra le choix du bien, du mal, comment il va faire sa vie. Si sa vie matérielle va être une vie spirituelle en même temps, ça sera uniquement une vie purement matérialiste. Et là, c'est liberté. On a la liberté. Mais à part ça, on n'a pas de liberté. Au contraire, c'est Hachem qui nous dit. Dans notre génération, on a ce route, le mérite d'être mis dans ce monde, dans cette période-là. C'est qu'en fait, tout le travail est fait. On ne doit uniquement conclure, terminer ce qu'on nous a donné. Et Yutchvat Afrinou a commencé cette nouvelle ère, si on peut dire, de faire de sorte que chacun, sans exception, ce qui n'était pas le cas avant il fallait des rabbins, des tzadikim, etc. Aujourd'hui, chacun, le shlucha des rabbins, il est un shléach du rabbi, bien sûr, il y a une archive, il y a tout ça, ça doit être ça. Celui qui doit se casser la tête pour l'argent à la fin du mois. Mais sinon, chacun, pour l'action, la chose la plus intéressante, c'est celui de faire descendre la shrina ici-bas, chacun ici, quel qu'il est sa vie, etc. Il a cette possibilité, donc ce mérite, ce privilège, de faire descendre la Shrina. Et ça s'est réalisé du Tchva. C'est un jour extraordinaire, un jour extraordinaire. Parce que les choses dans l'André judaïque, juif, pas simplement une date. Une date, elle arrive. Une date, 14 juillet, 15 juillet, ça change. Elle est que c'est pas. Non, c'est pas ça une date dans le calendrier. C'est parce que ce jour-là, cet événement s'est produit, il se reproduit de nouveau, et les choses sont possibles de réaliser. Donc ce jour-là s'est produit, cet événement, qu'on est passé du ciel à la terre. La Shrina est passée du sixième ciel, du premier ciel, vers la terre. C'est-à-dire qu'on est passé du domaine spirituel, où la spiritualité ne pouvait rester que dans un domaine extérieur, et là, elle pouvait se descendre dans le monde matériel, tout à fait matériel, jusqu'à matérialiste. C'est ça toute la difficulté. Avant, on n'avait pas la possibilité tellement de faire le choix. On avait la Torah, les mitzvot, on était dans le ghetto, etc. Aujourd'hui, on est dans un monde où on peut tout faire ce qu'on veut. Et chaque endroit, on peut faire descendre la couche, on peut faire amener la sainte. Et si on peut, ça veut dire qu'on doit. Si Hachem nous permet de faire, ça veut dire qu'on a la possibilité. Si on a la possibilité et on ne le fait pas, c'est qu'on dépend, on gâche. On manque. C'est marqué. Kol dor, she'en, et amigdash, nivna be'amav, ilu nechravu. Toute génération où le Beth Amidrash n'a pas été construit, c'est comme si qu'il a été détruit. Comment ? C'est ça ce qu'on a fait. Parce qu'il y a deux situations où il est construit, on est constamment en train de construire. Et si on arrête de construire, c'est une destruction. Parce qu'on regresse, on retourne. On doit constamment contribuer, on doit agir pour la construction du monde. Et chacun de nous a cette possibilité aujourd'hui. C'est ça. Le mérite, l'avantage que nous avons aujourd'hui, que chacun, quel que soit son contexte, sa vie, sa façon de voir les choses, il a cette possibilité extraordinaire d'accomplir cette mission qu'on lui a donnée, que le Nassir adore, que le chef de la génération donne à chacun. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on découvre de plus en plus de gens qui sont dans ce sens. Un seul, Amichan. Seulement, c'est une question de prise de conscience. Il a pris une conscience. Plus, un mois. Alors, il faut aller vite pour arriver à ça. Chaim, le Chaim. Je ne veux pas être seul à dire le Chaim. Que ce jour-là nous permette de faire un bon extraordinaire. Chaim. Là. Regarde le monde qui a changé. Au milieu d'un fanbring et d'un parleur portable. Le Chaim. Voilà l'évolution, hein. Avant, qui pensait qu'au milieu d'un fabringer chassidique, on prend un portable, on sort, on parle. Ça n'existait pas, hein. Aujourd'hui, tout est mélangé, hein. C'est positif et négatif. C'est négatif parce que, bon, on va rentrer dans des choses. On ne peut pas rester entièrement dans un Inyan, on est constamment dérangé par d'autres Inyanim. De l'autre côté, ça permet de diffuser le judaïsme en même temps, hein. Le rabbi dit que la raison pourquoi Hachem a fait qu'on peut trouver la radio et après tous les autres moyens de communication, des médias, etc. aujourd'hui, c'est qu'avant, si on écrivait un Dvar Torah, ça prenait des semaines, voire des mois pour que ça arrive aux autres. Et aujourd'hui, en un instant, on voit tout le monde entier entendre. On dit que Rashi, quand il a fait son pirouche, son explication sur la Torah, il a voyagé toute l'Europe. Certains disent qu'il est arrivé même jusqu'à Israël. En tout cas, il a fait toute l'Europe en cachette incognito. Il lui donnait ses textes, il mettait le contresse pour voir s'il y a quelqu'un qui n'a pas fait mieux avant de le diffuser. Ça lui a pris des semaines, des mois, voire des années. Il a fait 613 jeunes pour qu'ils disent le Mechaven, pour qu'ils trouvent la vérité. S'il était aujourd'hui Rashi, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il l'a mis sur Internet. Il dit qui fait mieux? Il y a mieux, c'est bon, pas mieux, allez, on dit tu, 3 minutes, c'est édité, il l'a utilisé. Alors, il y a un peu de temps qu'on a aujourd'hui. Mais bien sûr, chaque génération son temps. Hein. L'époque de Rashi, l'époque de Rashi, c'est autre chose. Hein. Aujourd'hui, nous sommes tous des petits Rashi. Et on a une autre rôle à faire, c'est pas d'écrire Rashi, parce que ça, c'est pas donné à qui que ce soit. Pas seulement que c'est déjà fait. Vous avez soulever un point juste, c'est déjà fait. Mais ça pas simplement que c'est déjà fait. Comme la Torah ne pouvait être donnée que par Moshe Rabbeinu, ce texte, le Rashi sur la Torah, devait être écrit que par Rashi. Un autre ne pouvait pas le faire. Il y a une histoire extraordinaire. Vous avez sûrement entendu parler de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, c'était un grand rabbin qui était le petit-fils de Rashi. Et lui, il était tellement grand qu'il a décidé que les tefilines que tous les gens mettaient jusqu'à son époque n'étaient pas cachères. Et lui a changé l'ordre. Bon, c'est une vieille discussion. Et lui, il a fait ce qu'on a, on met les tefilines de Rabbeinu Tam. Il s'est dit, il met deux paires de tefilines. On ne contente pas d'une. On met une. Après, il met une deuxième. Il y a une fameuse blague. Il y a un juif vient à la synagogue, vous la connaissez sûrement. Il veut mettre les tefilines. Il trouve une paire de Rabbeinu Tam. Alors, il veut les mettre, parce qu'il n'a pas ses tefilines. Alors, on lui dit non. C'est les tefilines de Rabbeinu Tam. Il a dit, c'est pas grave. Le temps que Rabbeinu Tam revienne, j'aurai fini ma prière. Pour dire simplement, d'abord, mon avis n'y compte pas du tout. Et deuxièmement, j'ai aucun avis à mettre là-dessus, parce que ça, c'est comme vous voyez, vous avez un grain de sable par rapport à l'ensemble du sable. Nous, devant Rabbeinu Tam, c'est encore moins que ça. Donc, c'est pas la question de notre avis. Nous, on met les deux paires de tefilines, parce que les deux ont raison. En tous les cas, Rabbeinu Tam, c'était un homme extraordinaire. Et à son époque, quand il a dit que les tefilines sont grands, comme Rashi les mettait, c'est pas cacher, on a dit, on va demander à Moshe Rabbeinu comment c'était. Donc, Rabbeinu Tam a fait descendre Moshe Rabbeinu dans son bête, c'est la Midrash. Et Moshe Rabbeinu a dit comme Rashi, pas comme lui. Il a dit à Moshe Rabbeinu, tu t'es trompé. Et il y a toute une discussion pour dire qui est la personne de Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi. Eh bien, lui a dit que écrire une explication, un commentaire comme mon grand-père Rashi sur la Gemara, sur le Talmud, je peux le faire. Mais comme le commentaire qu'il a fait sur la Torah, je ne peux pas. Lav Becheli, Rabbeinu Tam lui dit que lui, il n'aura pas pu le faire pour Rashi. Alors nous, on ne demande pas ni d'être Rashi ni Rabbeinu Tam. Par contre, oui, ce qu'on nous demande, c'est d'étudier tous les jours Chumash avec Rashi. Ça, oui. Et pour celui qui ne sait pas lire Rashi sans voyelle, mais il y a des rachis avec voyelles aujourd'hui. Et celui qui ne sait pas les rachis avec des caractères de rachis, il y a des rachis avec des caractères carrés. Et celui qui ne comprend pas encore l'hébreu, dit le rabbi, il ne doit pas apprendre l'hébreu pour faire rachis. Eh bien, il le lit en français, ou en anglais, ou en japonais, ou en espagnol. Aujourd'hui, la Torah, elle est abordable par tous les juifs. Et il n'y a aucune excuse, aucun prétexte. Et si quelqu'un n'a pas le temps, eh bien, il se connecte sur Internet et il peut étudier. Ah, bonne question. Mais s'il n'a pas le temps pour se connecter sur Internet pour étudier, il ne doit pas avoir le temps pour manger, ni pour dormir, ni pour faire toutes les choses. Mais pour ça, il trouve le temps. Alors, s'il trouve le temps pour la nourriture du corps, il faut qu'il trouve au moins un dixième de ce temps pour la nourriture de l'âme. C'est bon, votre texte. Alors, on a des cours ici, on veut un métrage de Montrouge, de Trabad. Il y a d'ailleurs, partout, on peut, au pire, on peut étudier même sur Internet. Alors, donc, on a cette possibilité, nous, non pas d'étudier, d'écrire rationnellement pas, d'étudier, d'apprendre, de connaître, de l'appeler Ishamsir, l'homme du don de soi. Et pas le Misirotnef où on cherche de se sacrifier la vie, pas du tout. C'est comme Abraham avait, nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait une mission divine d'aller vers la Haramria pour faire la Akeda d'Utrak. Il a avancé, c'est pas quelque chose sur son chemin qui va l'arrêter. Il faut avancer. Une anecdote, une histoire que vous connaissez, mais qui est extraordinaire, que le Rabbi lui-même l'a raconté, il y a une histoire de Chassidim, etc. Je dis toujours que la différence entre. Vous avez sûrement tous entendu l'histoire du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, des histoires légendaires. Il y a les histoires qu'on raconte sur le Rabbi, du Rabbi. Quelle est la différence entre le Baal Shem Tov et le Rabbi? Mais les histoires du Baal Shem Tov, si quelqu'un va raconter aujourd'hui une histoire nouvelle, qu'on ne connaît pas, c'est une histoire inventée. Parce que. On va raconter, tout a été dit, tout a été écrit, sauf si quelqu'un trouve un manuscrit inexistant. Sinon, toutes les histoires du Baal Shem Tov sont connues. Mais les histoires du Rabbi des miracles, on en découvre tous les jours. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont vécu ça, qui ont eu des histoires, que tous les jours il y a de nouvelles choses. Que des gens racontent, moi, ça m'est arrivé il y a 20 ans, ça, il y a 15 ans, ça, il y a 30 ans. Et tous les jours on entend de nouvelles. Et je sais pas, ça. Et ça, c'est une histoire qui est arrivée, que le Rabbi lui-même raconte. Qui est arrivée avec son beau-père, donc le précédent Rabbi de Baruch. Quand il était encore disciple, disons, fils du précédent rabbi de son père, il n'était pas encore rabbi. Il a eu une mission extraordinaire. C'est qu'à l'époque, c'était bien avant la révolution en Russie, c'est une histoire très connue, il y avait des juifs, alors non toujours des premiers liens des juifs aussi, qui voulaient qu'on organise la communauté, la vie juive, d'une manière différente de ce qui était acquis depuis toujours. Faire des réformes, faire des transformations, faire des changements, obliger les rabbins de connaître certaines choses, etc. Et donc, il voulait faire passer comme une loi obligatoire dans le système. Donc, c'était le ministère de l'Intérieur, hein, l'équivalent de Sarkozy d'aujourd'hui, qui est le responsable des cultes. Et donc, il voulait organiser que les cultes juifs soient réglementés et des obligations pour les rabbins, etc. Et ça, ce qu'on appelait une xéra, un mauvais décret sur le papier. Le rabbi Rachab, Rabbi Shalom de Robert, le tzaddik, le cinquième rabbi de Lubavitch, a essayé par tous les moyens pour annuler cette xéra. Et il n'a pas réussi. Alors il a envoyé son fils, le rabbi précédent, qui était très jeune, qui avait entre 17 ou 18 ans. Il l'a envoyé dans la capitale, Pétersbourg, qui est actuellement en Russie. Il lui a dit, voilà, tu vas là-bas et tu essayes annuler cette xéra, annuler son mauvais décret. Parce que, contrairement à d'autres personnalités qui ont pensé que certaines réformes dans le judaïsme vont permettre d'avancer, il fallait avoir la clairvoyance de ces grands hommes, de savoir quelles sont les choses qui sont positives, qui vont permettre au judaïsme d'avancer, ou, chas et shalom, le contraire, qui vont permettre, qui vont empêcher ou reculer ou même annuler. Et c'est très difficile de savoir. Certains disent ça. C'est un monde moderne, il faut s'adapter à la situation. C'est bon, et d'autres c'est le contraire. Et là, le rabbi a vu que c'était la destruction, c'était l'assimilation, c'était la fin du judaïsme authentique. Donc il fallait tout faire pour empêcher ça. Alors il demande, donc il envoie son fils, et lui dit, tu vas à Pétersbourg pour annuler cette guerre. Alors son fils lui demande, le rabbi demande jusqu'à quand, mais il lui dit jusqu'à Messirut Nefesh. C'est-à-dire jusqu'à un sacrifice. Il faut aller jusqu'au bout. faut absolument aller aussi. Alors évidemment, que quoi faire? Le rabbi qui avait des connaissances parmi des juifs, même des juifs non religieux, émancipés, comme ça, à l'époque, c'était, il y avait un grand baron Ginsburg qui était proche des autorités, etc. Et finalement, pas moyen. Celui qui détenait tout, c'était le ministre de l'Intérieur, qui après est devenu premier ministre, qui s'appelait Stolypine. Le Stolypine, c'était un rachat qu'on ne peut pas s'imaginer. Pas seulement comme les autres aujourd'hui qui aboient sur les juifs. Lui, il a toujours institué les pogroms, les grands pogroms en Russie des années 1880, etc. Celui qui était derrière. Donc, c'est juste terrible. C'est celui qui est très connu. Et comment on l'abordait? Lui, s'il voyait un juif, il devenait fou de rage. Alors, il a mis d'autres personnes que ce Stolypine, à son enfant, en sa jeunesse, il avait un maître, un savant, un professeur, un philosophe, qui était son maître, qui avait une influence sur lui. Donc il était allé le voir, il fallait qu'il aille dans un banlieue de ce pays-là, à ses Shabbat, une longue histoire. Il arrive chez cet homme, il discute avec lui pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, il voit que c'est un homme très intelligent, il peut poser des questions, il en discuter. À la fin, il lui dit pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, quand on veut, il lui dit voilà, j'essaye de rentrer en contact avec Stolypine. Je sais que c'est votre élève, alors votre ancien élève, comment vous pouvez faire? Il lui dit écoute, c'est Stolypine, c'est un homme de très mauvais caractère. Je le connais depuis toujours, c'était très difficile. Et je ne pense pas que je pourrais faire quelque chose sur lui, de toute façon je ne peux pas lui influencer, il est un ministre maintenant, il ne peut faire ça. Ce que je peux faire pour vous, c'est comme j'étais ami, je vais toujours rappeler avec lui, j'ai une carte spéciale, secrète, qui nous permet de rentrer au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur de Russie à l'époque, c'était comme l'Union soviétique, c'était vraiment, vraiment la forteresse. Personne, à part le ministre, quelques fonctionnaires et les hommes, personne ne pouvait rentrer. Au moins un juif, déjà un juif n'avait pas le droit d'habiter à Pétersbourg, comme c'était interdit aux juifs. Alors il dit voilà, j'ai ce laissez-passer qui m'appartient, je te donne, je ne dis pas que c'est moi. Voilà, et c'est le rabbi il prend ça. C'est. Il le remercie. Il va dans le ministère de l'Intérieur, bâtiment austère, carré, parce que c'est pas. Déjà, un juif qui s'approche de là-bas, il est douteux, on le soupçonne. Lui, le rabbi va, bien sûr, avec la barbe, le péote, le cirque, peut-être, le juif normal. Il s'approche du ministère, il y a des soldats qui regardent, ils ont déjà envie, avant de le fusiller avec les yeux, ils ont envie de le fusiller avec la fusil. Il s'approche, il dit qu'est-ce que tu veux, juif? Bon, à l'époque, il n'y avait pas de photo encore. Donc, il fait un choix. C'est une autorisation. Il rentre. Il prend la clé, tout à l'heure. Il ne fallait pas qu'il montre qu'il est perdu, qu'il n'est pas sûr, qu'il est nouveau. Et s'il rentre comme ça, là-bas, on rentre que les gens qui sont des fonctionnaires de ce bâtiment, de haut niveau. Il rentre comme ça, donc il fallait montrer une assurance comme ce qu'il était là, qu'il n'était pas du tout sûr, il se demandait, il ne pouvait pas demander à qui que ce soit ou quoi, parce qu'il cherchait le bureau de Stolypine. Il rentre dans un grand couloir, il y a des murs de tous les côtés, et il voit, il demande à quelqu'un comme ça directement, ce qui est déjà un miracle, qui lui a indiqué où se trouve le bureau de Stolypine. Il va vers ce bureau. Et voilà qu'il voit de loin un homme qui sort d'un bureau. Et qui descend le couloir. Et il était convaincu que c'était lui Stolypine. Et celui-là, il passe devant lui, il ne le voit pas. Il est content, il se dirige directement dans ce bureau où la porte est restée, quand même. Sur chaque bureau, il y avait marqué des noms. Là, c'était marqué Stolypine. Là, c'était bien, c'est un bureau. Imaginez ça. Il rentre dans le bureau et commence à chercher les documents. Il y avait une pile de documents où c'est marqué accordé. Et d'autres c'est marqué non accordé, refusé, rien de tampon. Et il cherche ce document, cette loi que les gens voulaient passer pour laquelle il est venu annuler. Il la recherche partout sur le bureau, etc. Il a trouvé ça. Il commence à regarder mon tiroir, et il a trouvé finalement ça. Ok, mais qu'est-ce qu'il fait? Il voit sur le gros le tampon qui dit non accordé, refusé. Il prend le tampon, il prend le document, cette loi du Sénat qui a été proposée pour faire que ce que lui était derrière, il marque non accordé, et il l'a mis sur la pile, il l'a fait refuser, et il sort. Il a refusé, il rentre, il a passé. Là, évidemment, c'est M. Rottenefèche parce que c'est vraiment rentré dans la gueule du lion. Pourquoi? C'est pas une mitzvah sur la Torah qu'il faut sacrifier sa vie. Il n'y a que trois lois pour lesquelles on a l'obligation de sacrifier sa vie. Le Zara, les Tokrides, de la Rayot, l'inceste, Shurodamim, verser le sang d'un autre. Là, si on nous oblige de le faire, il ne faut pas le faire, il faut sacrifier. Pour le reste, il n'y a pas cette mitzvah. Et là, il a mis sa vie en danger. Imaginez si on l'arrêtait, c'était fini. Surtout pour un acte qu'il a fait, c'était de rentrer, de tamponner, de charger, une chose, une loi. Et il l'a fait pourquoi? Parce que il y avait un but à atteindre. Il fallait réussir à sauvegarder le judaïsme. C'était le judaïsme tout entier qui était en danger. Parce que si Chas et Shalom, cette loi passait, ça aurait changé les cadres du judaïsme. Ça aurait été plus des bachorim de yeshiva qui étudient, qui vont après être des cadres communautaires. Mais ce serait des gens qui ont une autre philosophie, une autre idée. Et finalement, le peuple Israël serait voué à l'assimilation. Ce qui est malheureusement arrivé dans notre pays, dans notre contrée. Heureusement qu'il y a eu un roi Tahara, le rabbi, un esprit de pureté qui est descendu sur ce pays. A changé les choses, quand la France est devenue un pays de Torah. Ce qui n'était pas du tout le cas. C'était un pays d'assimilation par excellence. À l'époque en Pologne, avant la Première Guerre mondiale, quand des enfants partaient en France, les parents faisaient kriya, déchirer les vêtements pour que quelqu'un qui est décédé. Ça veut dire qu'il est terminé avec les vêtements. C'était pas possible. C'était considéré, on voulait dire quand quelqu'un était un étranger, quelque part, on disait, en exemple, on disait, ils se sont étrangers comme Dieu à Paris. Pas Montrouge. C'est vraiment. Avant, c'était comme ça. Il y a eu un roi, le changement de roi de Tahara, une transformation totale. Une littorale. Et puis, le judaïsme, frère, c'était bien. Mais sinon, c'était parti, pourquoi? Parce que non, il y a eu des responsables, des leaders, etc., qui ont pensé d'une manière différente. Il serait arrivé avec le judaïsme. Il avait fait sur route la tâche, le don de soi, le sacrifice de son existence même. Et comme, là le rabbi explique cette histoire d'un univers extraordinaire, il dit qu'en fait, le seul qui pouvait aller ici, il fallait carrément braver un pouvoir de royauté. Parce qu'ici, c'est pas attaquer un commissariat, entre guillemets, ou un subalterne. C'était la puissance même de la Russie, le tsar, de tous ceux qui connaissaient à l'époque l'histoire du tsar. Le tsar, comme dit le rabbi, certains disent qu'il n'était pas un grand chacham. D'autres disent qu'il n'était pas chacham du tout. C'est une version que le rabbi s'en fout. Il n'était pas chacham du tout, loin de ça. Et qui dirigeait le pays, c'est celui qui avait un autre nom. C'était des gens qui avaient la poigne. Donc, on rentrait dans son bureau et changeait, c'est-à-dire aller transformer le système dans sa base, dans son essence. Pour ça, il fallait quelqu'un qui soit l'équivalent de Malchut, de la royauté. Il fallait quelqu'un qui soit de la descendance de Malchut Beth David, soit un assis pour pouvoir le faire. Le rabbi l'explique que le rabbi précédent l'a fait en tant que chaliar, en tant qu'émissaire de son père. C'est-à-dire qu'il y avait ici une action, finalement, de contrepoids de Malchut, ou la royauté de David, contre la royauté du tsar, etc. Et seulement, ce contrepoids a pu le faire. Autrement, ce ne serait pas réalisé. C'est-à-dire, le principe même de cette idée, c'est qu'il fallait qu'il se soit quelque chose d'équivalent. Aujourd'hui, de nos jours, eh bien, il y a eu cette même évolution. Au Hachem, aujourd'hui, le monsieur Rottenefèche, il n'y a pas de danger, hein. On ne demande à personne aujourd'hui d'aller rentrer dans le bureau de Sarkozy, de changer les documents. souvent. Au contraire, lui, il vient à des manifestations juives, à une évolution totale dans l'esprit du monde profane, ce qui n'a jamais existé avant. C'est jamais possible qu'un Stolypin, ou un ministre d'intérieur de la France, ait l'image de Chanukah. Mais à part ça, cette notion que chacun de nous, il a ce koach, cette force de Meshaleach, ça c'est encore une autre révolution, et une révolution dans le monde du judaïsme. Parce qu'en fait, si aujourd'hui on a pu, on peut chacun aller Mifsaïm, etc. Et l'expérience montre chacun qui va à Mifsaïm, il sent que c'est miraculeux, c'est pas naturel. On rencontre des gens comme ça, on n'a pas tellement la possibilité de parler, et ça se réalise tout seul. Chaque fois que les gens reviennent de Mifsaïm, on raconte des missimes, des miracles. Comme si on était des rois, des maîtres qui changent le monde. Parce que c'est pas nous qu'on va. On va en Shlichut. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Il y a des années de cela, le rabbi a demandé que chaque juif participe au Mikri d'un Sefer Torah. Si vous vous rappelez, c'est toujours la notion des lettres. Chacun une lettre dans le Sefer Torah écrit. Chacun une lettre dans le Sefer Torah. Et quand il a commencé, il a dit ça à l'origine, qu'on écrive une lettre chacun par groupe, c'est-à-dire ceux qui ont étudié dans le Tom Chetunim, dans la Yeshiva, le Tom Chetunim, face eux, un groupe, tout cela, ici, dans les lettres, dans ce sur le terrain. Qu'est-ce que Tom Chetunim ? Tom Chetunim, tous ceux qui sont dans la Yeshiva, c'était l'école, la Yeshiva, que le père du président Rabbi a créé dans la ville de Lubavitch, qui était particulière, spécifique, qui devait préparer le monde à l'avènement du Mashiach. Je résume toute la lecture de l'histoire. C'est une Shiva exceptionnelle. Ceux qui étudient cette Shiva s'appellent des Tmimim. Et pour entrer dans cette Shiva à l'époque, c'est le rabbi seul qui choisissait. Il y a des gens qui l'ont refusé. Donc c'est des gens qui l'ont. Parce que ça dépendait de la Neshama. Il fallait être à un niveau exceptionnel pour être les premiers dans cette école. Et ensuite, on fait les émules et les yeshivas. Quand le rabbi il a demandé qu'on écrive le Sefer Torah pour tous ceux qui sont en train de nous, on a demandé au rabbi, c'est le Sefer Torah, le premier. Si c'est uniquement ceux qui ont étudié à la yeshiva de ton Sefer Torah, c'est-à-dire en France, en Pays-Bas, aux États-Unis, en Israël, il y en a beaucoup plus, mais sinon c'est très limité. C'est tout le monde ne pouvait pas rentrer ton Sefer Torah. Est-ce que uniquement eux, donc c'était limité, le rabbi a dit non. Et tout celui qui participe, qui fréquente, qui vient dans un Bet Chabad, il a un guéder, il a un statut d'interdit. Il a donné cette possibilité, il a élargi. Ce n'est pas simplement une question de formalité, c'est une question spirituelle. Si on participe au Fabring, on vient, on fréquente le Bet Chabad. On a un statut de Tamil. On a un guéder, on a une évaluation, une force de pouvoir agir. Le rabbi a fait que chacun qui fait mieux, il a cette force de pouvoir transmettre, diffuser, changer. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. Il donne à chacun que celui qui n'a pas grandi dans ton rang, pour des raisons qui sont totalement indépendantes de lui. Ça fait plusieurs fois. Un jeune homme qui est tombé par hasard à Grenoble. Il n'y a pas de hasard. Ah, c'est pas grave. Tout à l'heure, j'appelais quelqu'un sur le portail, il me disait ah, je t'entends, je m'entendais par le portail. C'est quelqu'un donc, qui était à Grenoble, sa voiture est tombée en panne, il a un radiateur qui a. Il faut passer la carrière, il s'est appelé, c'était sur l'avenue de la Yeshiva. Donc il est rentré pour chercher de l'eau. Évidemment, lui, il cherchait de l'eau matérielle, on a besoin de l'eau spirituelle. Alors, je ne vais pas dire son nom parce qu'il est connu en parler aujourd'hui. Et on lui a mis des petits lignes, etc. Et voilà, l'étincelle était allumée. Et il a commencé à s'approcher. Et un temps après, il était allé chez le rabbi en tant que jeune homme, partout, etc. Comme il était nouveau, nous on était jeunes, on pouvait parcourir à la Yeshiva, ça nous a aidé. On n'a pas discuté avec les Yeshiva. Et il nous a posé la question que tout chez le Maharishi, tout va bien, ça lui convient tout. Une seule chose qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est cette dévotion au Rabbi. Ce qu'on appelle, à l'époque, on appelait ça le culte de la personnalité. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Comment ? Ça. Alors on discutait, etc. Finalement, on lui a dit, écoute, tu vas entrer en Yichidut, on va dire à cette position. On lui pose la question au Rabbi directement. On nous l'a conseillé. Ça nous arrangeait bien, parce qu'on voulait savoir comment le Rabbi va répondre. Quand lui était naïf, il ne savait pas qu'on pouvait. Ah, il a écouté, on a parlé un peu baratine entre guillemets. Et on a dit, pose cette question-là. Donc il a posé plein de questions au Rabbi. Et c'est là qu'il a posé la question. Il a dit, tout va bien, mais ça me dérange, cette façon vénérée, etc. Ça, je comprends pas. Et là, je me souviens quand il est sorti, il était complètement assorti, lui aussi. Le Rabbi lui a dit en français, c'était là. Si on était là, on a entendu dès qu'il est sorti. Alors il a dit, moi personnellement, j'aime chaque juif d'un amour débordant. J'espère que c'est réciproque. En fait, tout est. C'est pas une question beaucoup de personnalité. C'est pas chout, c'est kamaim, apanim, apanim, qui élève Adam à la main. Comme le visage se reflète dans l'eau, ainsi un cœur se reflète dans le cœur. Et comme quelqu'un, on ne va pas dire, ah, tu es dévoué à tes parents, c'est normal. Mais dans la Gemara, dans la Halakha, qu'un maître, c'est encore plus qu'un des parents. Parce que les parents, si c'est uniquement l'amazé qui l'a amené dans ce monde, le maître, il amène ce monde à l'autre monde. Donc cette notion de dévotion, c'est en fait une conséquence de dévouement du Rabbi vers nous. Et c'est ça la grandeur. Le Rabbi aujourd'hui se donne à nous au maximum. On peut se poser la question, on ne le voit pas physiquement, présent, etc. Ça c'est une question matérielle, physique, c'est nos vies qui nous passent. Bon, le Rabbi, comme dans le Zohar, il ramène sa montagne d'aujourd'hui, comme il dit le jour de Mitzvah, le Chazaï. Pour les tzadikim, il y a plus différent. Oui, il y a différent. On voit, on va, le tzadikim, c'est plus encore. Il a dévoué à chacun. C'est derrière chacun. Il intervient pour chacun. Il aide chacun qui veut avancer un peu, qui veut. On ne voit pas. La chair, on va faire comme ça. Sans parler que de miracles. C'est pas uniquement une question de miracles. C'est un jour, on raconte une histoire qu'il y avait plusieurs chassidims de différentes obédiences qui étaient réunis à une fois, des hommes d'affaires, et ils se retrouvaient à Leipzig pour une ville, chacun de ses groupes, ils étaient en auberge, chassidim entre eux, ils racontaient des histoires de rabbi. Chacun racontait comment il a un miracle de son rabbi. Bon, nous les rabbis, rabbi. Alors ici, il y avait parmi un chassid de Lubavitch, il dit, toi, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, voilà. Bon, j'avais une affaire très importante à faire, je demandais le conseil du rabbi. Le rabbi m'a conseillé de le faire. J'ai fait ce qu'il m'a dit, c'est complètement faux. J'ai tout fait. Il lui a dit, et où est le miracle alors? Et le miracle, c'est que je continue à aller le demander. C'est pas une question de miracle, de faire le miracle. Le plomb en or, etc. C'est un chassid qui a vécu beaucoup de temps. C'est pas une question seulement, bon, ah, il fait un miracle, c'est un rabbi, il fait pas de miracle, c'est pas ça du tout. Hein. Chassid Chabad, le rabbi, il nous aide, etc. Évidemment, de toute façon, c'est toute notre existence, il est miraculaire. Le rabbi Rachab a dit, la parnassa qu'un juif il a dans ce monde pendant la galoute, c'est un miracle. Logiquement, on ne devait pas avoir parnassa à la. Non, c'est pas une question seulement de miracle. Le miracle, c'est que nous sommes vivants. Vivants spirituellement. Le miracle, c'est qu'après Chas v'Shalom la Shoah, on a pensé, on pense beaucoup, on ne pensait pas que l'égoïsme. Les juifs aussi, que c'était fini avec le peuple d'Israël. Pas du tout. On ne dépend pas des règles matérielles. On est dans le monde matériel, c'est bon. On est là pour transformer le matériel en spirituel. Mais en aucun cas, les lois de la matière nous régissent. Sinon, on ne devait plus exister comme les autres. qui était le plus grand, le plus puissant. Nous, non seulement qu'on ne disparaît pas de la carte, même ceux qui disent on va les faire disparaître de la carte, carte, eux disparaissent à ce moment-là. Ça ne dépend pas de nous. Ah, mais ça, c'est évidemment au niveau collectif. Chacun de nous doit exister à un niveau individuel. En faisant ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire. Et ce qu'on peut faire, c'est beaucoup de choses. On peut faire des choses extraordinaires. Et on a de l'aide pour toutes ces choses-là. C'est bon, il faut vouloir. Vous avez le sou d'être là, d'étudier. Vous êtes là d'Aïshiva, vous êtes ici, c'est bon, non? Alors, il faut venir. Voilà, il faut prendre une bonne résolution. Je ne rentre pas dans les détails, je ne sais pas exactement, mais c'est une bonne résolution. C'est une chose très importante, je disais à David, c'est extraordinaire de, quand on a fait fini ses études, le bac, etc., avant de rentrer encore dans une autre forme de monde matériel, prendre une année break, une année consacrée à l'étude de la Torah. C'est extraordinaire. Car Michel et Lonata, il y a tellement de choses chez nous, on pense que. Bon, c'est vrai qu'on a besoin de parmassa, etc. Admettons. Faire une chose pour nous, c'est extraordinaire. C'est... Ce qu'on a, nous, c'est. Même par rapport. Un jour, le rabbi précédent dans sa vie, plus jeune, il était directeur de la yeshiva, c'est qu'il faut faire la fondation de son fils. Et à partir de 15 ans, il a nommé directeur. C'était une personne extraordinaire, quoi. Et à l'époque, il fallait faire le service militaire. Et les jeunes qui venaient à la yeshiva à 18 ans, ils étaient déclarés, bon, c'est toute une longue histoire. Alors on est venu demander les registres, on interrogeait le rabbi précédent. S'il ne cachait pas, s'il ne prenait pas, il y avait des gens qui venaient en service, il y avait des photocopies, pour faire ce service. Alors un jour, ils viennent deux officiers de service secret, de haut niveau, grands officiers, et ils leur demandent qu'ils fassent discrètement, ils ne veulent pas faire de bruit, c'est un bilan civil, c'est un peu comme ça, et ils l'ont interrogé, questionné pendant 2 heures. Après, il est rentré chez son père, le rabbi. On lui a dit comment ça s'est passé avec ses hauts officiers des services secrets. Le père, on a dit un enfant du cheder, il a plus de sechel que moi. Un enfant qui fait du cheder à 5-6 ans, c'est tout à fait autre chose. Il faut savoir que quand on étudie. Le texte, c'est l'équivalent de ces gens-là qui avaient des hauts diplômes, etc. C'est pas pour dénigrer, hein, il y a des études, etc., mais pour dire que l'équivalence, elle est là. Hein. Donc en faisant une année d'études, on ne perd pas du tout. Hein. C'est pas une année perdue, c'est une année gagnée. C'est 3 ans de gagner. On est là. Le Chaim. Il ne faut pas se perdre dans les paroles, il faut se. Prendre des achlatot, des résolutions, hein, des bonnes achlatot, hein, parce que moi je dis que quand je viens, je me déplace pour parler, c'est pas gratuit, il faut payer. Ce qui est gratuit, ça vaut gratuit. Ça veut dire que ça vaut rien. Mais il faut payer. Alors combien? Je ne vais pas vous dire la somme. La seule chose, que chacun, personnellement, il va prendre une décision de faire quelque chose en plus de ce qu'il fait jusqu'à maintenant. Il ne doit pas me le dire à moi, ni à personne, ni même pas à David Mimoun, à personne. Hein. Il le prend pour lui-même. Il dit aujourd'hui, Yud-Shvat, on va prendre une chose de faire plus. Oui. Ça, c'est le prix. Ça, c'est le prix à payer. Hein. Hein, c'est très cher. C'est vrai, tu as raison. C'est plus cher. C'est préférable donner 100 euros et avoir la tête tranquille. Bien non, pas du tout. Ce n'est pas une question de financer. C'est une question de faire une hachlata, une résolution. Je ne sais pas ce que chacun fait, ce n'est pas mon problème. Chacun il sait ce qu'il fait. Et chacun il fait, il dit tiens, je vais faire un peu plus, un peu mieux. Voilà. Après tout le reste, ça va aller tout seul. L'chaim. Bien sûr. Je vais dire l'chaim, comme ça j'aurai la tête plus claire pour vous répondre. L'chaim. L'Hachem nous aide. On est des hachlatot, des résolutions qui font que chacun de nous se rapproche encore plus du Emet, parce qu'on est à côté du Emet, mais des fois il faut faire un pas plus, qu'on soit dans le Emet entièrement. Chaim.
Quelle heure il est ?
Minuit et quart déjà, voilà.
Aïe 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 aïe.
Merci. Pas de quoi, avec plaisir, hein. Ça fait plaisir de vous rencontrer.
Je vous laisse mon fils.
Eh bien, vous laissez un otage. On dit que c'est un gourari, le gourari. Bon, le Chaim. C'est pas pour noyer votre question. Allez-y. Non, mais c'est justement ça, exactement. Là, ça, c'est tout à fait ça. C'est qu'aujourd'hui, le rabbi a fait que chacun de nous, tout en n'étant pas rabbi, loin de là, hein, d'ailleurs, rabbi, hein, on a cette délégation de pouvoir, entre guillemets, hein, de pouvoir avoir cette possibilité, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Et avant, ceux qui avaient peut-être ça, c'était des grands chassidis qui priaient toute la journée, qui priaient. Aujourd'hui, chacun de nous, quel que soit, peut le faire. C'est ça qui expose la grandeur du rabbi. Oui, oui. D'ailleurs, à Nice, quand quelqu'un il me dit, on lui dit, tu n'es pas Lubavitch, tu n'as pas de barbe, il dit, non, je suis un Lubavitch déguisé en non Lubavitch. En fait, bon, ça demande encore une bouteille de machinapa. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de réponse. C'est simplement une question de hergesh, c'est-à-dire, oui, il a dit feeling. C'est pas une question de feeling seulement. Nous, en tous les cas, pour moi, nous, il y a la Gemara dit que quand les d'Israël, ils étaient devant la mer, ils avaient des dilemmes. Il y avait d'autres opinions, chacun disait ce qu'il faut faire. Hein, parce que chez les juifs, vous savez, deux juifs, c'est trois synagogues. Pourquoi trois? Parce qu'il est dans une île, vous savez l'histoire, une île qui s'est retrouvée, il y a un bateau qui a coulé, et deux juifs se sont retrouvés dans une île. Et quand on les est venus les sauver, il y avait trois synagogues. Il dit comment? Pourquoi trois? Vous êtes que deux? Il y a la mienne, il y a la sienne et celle qu'on boycotte. Donc on ne va pas. C'est toujours comme ça. Donc chacun la synagogue et celle qu'on sait là je ne mets pas les pieds. Donc, il y avait au moment de la mer, il y avait quatre opinions, quatre groupes de juifs. Pas trois, pas quatre. Il y a un groupe qui a dit, à nous, et là nous, et là d'Ivré Ben Abraham. Nous, on ne sait rien. Nous, on fait que ce que nous dit le fils d'Amram, en faisant allusion à mon cher Abraham. Alors, vous me posez la question, ce n'est pas pour esquiver. Non, mais je vais vous répondre, en ce qui me concerne. Pour le rabbi précédent, le rabbi lui-même parle du décès de son beau-frère. Alors, je répète ce qu'il dit. Le rabbi, moi, je ne peux pas inventer des choses que je n'ai pas entendues. Donc, moi, je n'ai pas entendu du rabbi parler de lui-même de son décès. Donc, je ne le prononce pas. Je ne peux pas dire des choses que je n'ai pas entendues. Voilà, en résumé, l'explication. Hein. En ce qui me concerne. Hein. Donc, je ne peux dire que ce qui est marqué. Hein. Tout ce que je dis, c'est des choses... Non. Moi, je vais vous dire parce que je suis tunisien. Abichai Tayeb l'homme. Mais en tunisien, il faut dire l'oumit. Mais en tout cas, c'est pas une invention tunisienne. Si vous allez lire tous... Alors, les gens ne savent pas. C'est même pas, pour les Sfaradim, c'est des choses tout à fait concevables. Chez les Sfaradim, la Amunat Tzadikim était très connue. Chez les Juifs Yekesh, chez les Juifs Ashkenaz, c'est comme moi. J'ai eu du mal, c'est possible de le dire. Mais cette histoire de croire, de savoir que les Tzadikim, après leur disparition physique, sont toujours là, c'est avant les Tunisiens, et avant les Sfarades, et avant les Ashkenaz, et avant la Gemara. Et vous connaissez un grand rabbin que les Tunisiens disent qu'il est Tunisien. Les Algériens disent qu'il est Algérien. Les Marocains disent qu'il est Algérien. Il s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui, il n'a jamais été en Tunisie, ni en Maroc. Ce Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait un fils qui s'appelait Rabbi Lazar. Et d'ailleurs, Miron, il repose à côté de lui. Quand Rabbi Lazar, il est diftar, il est décédé, sa femme, elle n'a pas voulu l'enterrer. Parce qu'il a dit qu'il est vivant. Elle a transporté dans le grenier, elle a fermé la porte, et elle a dit qu'il est vivant. Là, c'est une histoire dans la Gemara. Et il disait, tout celui qui veut poser des questions, on lui pose. Et elle était devant la porte, on lui posait des questions, elle disait, mon mari a dit ça et ça et ça. Et il répondait. Et ça a duré, vous savez combien il y avait? 25 ans. Et il y avait des rabbins à l'époque qui ont dit, bon, ça risque d'être... Hein, ils ont forcé de force, ils l'ont pris, ils l'ont enterré à tout. Sinon, ça aurait continué jusqu'à nos jours. Alors, c'est ni tunisien, etc. C'est différent. Ça existe. Mais seulement, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Regardez une histoire extraordinaire. Il faut parler de ça. Quand, dans la paracha de la semaine dernière, on parle quand Dieu a sorti les juifs de Mitzrayim, c'est marqué Be'etzem Hayomazé, en plein milieu du jour. Be'etzem Hayomazé. Et Rachid dit pourquoi c'est marqué en plein milieu du jour? Parce que, Hachem a dit, s'il y a quelqu'un qui veut empêcher, je ne les sors pas, les juifs en cachette, la nuit, comme des voleurs. On dit, ah, si on savait, on n'aurait pas laissé. Voilà, je fais en plein jour, si quelqu'un veut empêcher, on va voir qui est plus fort. Et pareil, c'était dans l'arche de Noach. Noach est rentré, au milieu, Dieu, il y a qui ont dit, si on ne veut pas le laisser rentrer, tous les gens dans sa génération, on va le tuer, on va casser l'arche, etc. Il a dit, on va voir. Il est rentré en plein milieu du jour, et Hachem a protégé avec les animaux, etc. Il est rentré. Et la troisième fois, c'est lorsqu'il concerne la mort de Moshe Rabbeinu. Ou dit le Midrash et Rashi qui le ramène, que Hachem a dit, je vais le faire disparaître en plein milieu du jour. Parce que les Juifs, ils ont dit, nous, on ne va pas le laisser mourir. On va l'empêcher. Il a dit quoi? Celui qui nous a sortis d'Égypte, il nous a fait tout pour nous, l'Aman, le Meir Myriam, tout ça, grâce à Moshe, le Msirotef, tout ça, on va laisser partir, on ne va pas le laisser. Est-ce que les Juifs étaient fous? On ne va pas le laisser, non. C'est-à-dire qu'ils pouvaient. Hachem a dit, je vous laisse pas. Mais c'est-à-dire, s'ils ont dit ça, c'est-à-dire qu'ils en pouvaient. On pouvait ne pas le laisser partir. Vous vous rendez compte? La disparition de Moshe Rabbeinu, si Hachem aurait permis aux Juifs, il ne l'aurait pas laissé. Hachem l'a dit, c'est moi qui décide, alors vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne vous laisse pas faire. Mais ce n'est pas Stam des paroles. Ils auraient pu le faire. Et le Rabbi dit, explique comment ils auraient pu le faire. Parce que Dieu lui a dit, allez, hara avarim azé. Monte sur la montagne, et là tu vas mourir. Alors, les Juifs, qu'est-ce qu'ils avaient fait? On l'aurait empêché, on l'aurait pas laissé monter sur la montagne. Force, on le tient. Donc, on pouvait même pas empêcher la disparition de Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu n'a jamais disparu. Hein. Un jour, on était à... C'est la même leçon. On n'est pas loin de la ville de Troyes. Alors, c'était avec mon père, on fait un bricolage à Metz, selon ceux qui ne pas. On a dit, tiens, on va voir à Troyes si on va trouver la présence de Rachid. Alors, on est allé voir qui on va voir. On va le rabbin, c'était Abba Samoun, toujours là-bas. Et on est venu chez lui, on a bien reçu, etc. Et on dit, voilà, on est venu chercher Rachid. Chercher Rachid, il a ouvert un choubash, il a dit voilà Rachid. Il a ouvert un Gemara, voilà Rachid. Il se venait à trois chercher Rachid. Rachid, il est partout. Ici, il n'y en a pas plus Rachid. Ici, il y a un rue Rachid, c'est tout. Et en Israël, il y a 36 000 rues Rachid. Non. Il y a Rachid, c'est pas la peine de chercher à trois, ni à quatre, ni nulle part. Rachid, il est partout. Vous ouvrez un choubash à 5 ans, un enfant, et comment choubash? Rachid. C'est le mot le plus connu après le choumash. Gemara, Rashi. Tfilin, Rashi. Tous les jours, on met les tfilin de Rashi. Rashi, il est vivant, il n'est pas besoin de chercher une tombe de Rashi. Rashi, il est là, il est dans nous. C'est nous qu'on rend vivant Rashi. Et nous, comme on est la septième génération, nous, on tient en vie tout ce qui est lié avec ça. Alors, vous êtes vivant, alors le Rabbi est vivant. Nous, c'est plus vivant. Le Rabbi, il est au milieu de nous, en nous, avec nous, partout. Chaim. C'est personnel, hein, chacun peut faire sa famille. Chaim. Mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous, on est des êtres physiques et matériels, on veut voir de nos yeux physiques, c'est évident. Non, je suis d'accord, non. Ouais, il y a qui ont des traitements de faveur. En tous les cas, c'est nous qui font les choses. Hein. Nous sommes de cette génération qui le rend vivant, qui le garde vivant. Chaque génération. Chaim. Chazdecha, omeranena, venismecha, vechal yameheinu. וינחם על עבודך סבינו ובקך על דרך כיסט כיספס, הוא גם פחתיר הוא פה מנו מה? כשאתו הם פרימי אתו? כשאתו אישי? לא? סקות יונקו? Non, machin, mais là, parce qu'ils ne voyaient pas, ils entendaient seulement. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres fabriques aussi, non, à Paris, il n'y a pas d'autres fabriques ce soir. Oui, je sais, mais ce soir, il n'y a nulle part. Si vous venez sur la Côte d'Azur, ne manquez pas de venir nous rendre visite. Hein. On a un restaurant, on a tout ce qu'il faut. Vous venez sur la Côte d'Azur, passez nous voir. viens nous voir un peu sur la côte.
Très bien.
Bon, le Chaim, on va. Chacun vaquer à ses occupations. On a beaucoup de choses, vous avez des responsabilités. Chaim, pour conclure avec une petite histoire. Oui, bah, chien, d'accord. Une histoire vécue, hein, une histoire qui est arrivée. Dans les premières générations de Chassidim, on ne racontait pas des histoires de Rabbi. C'était plutôt considéré pas très positif. On dit « Otot Moftim, Admat Benecham ». Le miracle, c'est pour les Cham, pour les gens. Nous, on essaie de comprendre les choses. Mais le Rabbi, avant encore, il a écrit à son beau-père, le rabbi précédent, il demande pourquoi on ne publie pas les miracles de notre génération, c'est important de raconter les miracles. En fait, les miracles, l'histoire de Tzadikim, dit une chose extraordinaire, le Tania, le Mourazaké, qui explique que la Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, mais avec la Mida de Elohim, Gvura, Breshit Bara Elohim, avec la rigueur, celle de la rigueur, ça veut dire qu'il s'est caché derrière la nature. Quand les goyim disent, la nature a bien fait des choses. Quelle nature? C'est la même chose. Nous, on parle d'Hachem, de nature. Je n'ose pas dire. La nature a bien fait des choses. Alors, c'est Hachem qui est caché, qui se voit derrière la nature. C'est gros. Mais Dieu a dit, Rachid ramène ça, que Rach est la galère de Kayem. J'avoue que le monde ne va pas exister. Si on va rester uniquement dans la philosophie cartésienne, dans l'athéisme, dans l'histoire de Darwin ou de les autres, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Shitef imo midata. Il a rajouté, il a associé avec Elohim, avec le Teva, Rachamim. La miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est quoi la miséricorde? Je vais dire à Dora Zafim al c'est autant aux moftim, ce batora, et les moftim des tzadikim. Il a permis que la Torah nous raconte des miracles. Il a permis que les tzadikim fassent des miracles. Ça, c'est midat arachamim. C'est ce que Dieu a eu pitié de nous, qu'on puisse voir que ce n'est pas une question de nature. La preuve, il y a des choses naturelles, et ça va totalement à l'encontre de la nature. Et ça, c'est une rachamim que Dieu a fait avec nous. Sinon, le nes, c'est quoi? C'est que la nature, subitement, ça ne marche pas. La nature fait autre chose. La mer qui s'ouvre, c'est pas la nature. Pourtant, de l'eau qui s'ouvre, on peut le faire. Prenez la même chose, on peut le faire artificiellement. Prenez de l'eau, mettez un ventilateur très puissant, et l'eau va reculer. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la couverture de la mer? Arkadim, que là, il avait un vent puissant, il a poussé l'eau, il a tenu l'eau ouverte. Mais seulement, où est le miracle? C'est arrivé au moment voulu, quand on avait besoin, pour que les Bnei Israël y rentrent, pour qu'ils fassent le demi-tour, que les Égyptiens les suivent, et dès qu'eux, ils sont rentrés, ça s'est refermé. Avec tous les autres miracles qui sont présents. Mais c'est-à-dire, c'est la même nature qui ne suit plus les règles naturelles. Et c'est ça le monde. Alors c'est une preuve. Ça ne peut pas être. Si c'est nature, ça va marcher, ça ne peut pas changer. Ça, c'est la rachamim, la plus miséricordieuse. C'est pour ça que c'est important les histoires des tzadikim, de Valshantov, etc. Pour nous dire qu'on va renforcer notre émouna. Alors, une petite histoire pour terminer. Alors, je vais raconter, elle est même imprimée. Puisque je viens de Nice. Alors, une histoire niçoise. Toi, tu es né à Nice, non? Pas les escrocs. Ah. On avait un beau travail dans une petite rue, petit, etc. Et on cherchait un local, une école, etc. Et il y avait un bâtiment qui convenait, mais on n'arrivait pas toujours au propriétaire. Et bon, il est arrivé un petit cher rabbi, on a eu une bracha, parce qu'on peut voir, on a dit, une bracha, je rentre à Nice, et comme par hasard, il y a une affiche, une annonce dans le journal, une maison à louer. Je tiens, je cherche ici, je téléphone, c'est celle-là qu'on voulait. Non. Alors, bien, c'est extraordinaire, c'est très bien. Mais je ne sais pas si c'est à Paris comme ça, mais à l'époque à Nice, en tous les cas, c'est un grand public. Quand j'allais quelque part pour louer, même pour moi personnellement, dès qu'il me voyait, il s'est loué. Il téléphonait, il s'est appelé. Dès que j'arrivais, je rentrais, il me voyait. Ah, on allait déjà fait. Je partais, on téléphonait, c'était toujours comme ça. Alors on a trouvé l'astuce, j'ai envoyé ma femme, hein, elle n'a pas de barbe, donc elle allait, comme américaine, elle parlait de l'appartement, etc. Donc la femme, ça bien. Quand il fallait le visiter, j'arrivais aussi. Alors là, il ne pouvait rien dire. Alors pour cette maison, il savait que si je venais, il allait devant. Donc ma femme est appelée, elle a pris rendez-vous, à la visite, j'arrive. Bon, on visite, ça conclut. Et en fait, donc on est avec personne. On dit voilà, monsieur, on veut acheter ça, ça nous intéresse pour acheter. Alors il dit non, impossible. Pourquoi? Parce que question de plus-value, l'héritage, une histoire, pas du tout. On ne veut pas avoir uniquement en location. Bon, l'aide Brera est préféré parce que si on veut mieux acheter, bon. Bon, il dit d'accord. Il dit écoutez, c'est bon juif, mais on doit avoir l'accord de notre maître, c'est le rabbi, on va lui demander si d'accord, si vous êtes d'accord. Donc je l'écris au rabbi un téléphone. Et voilà, commerce, etc. Et le propriétaire, il veut nous louer. D'accord, donc d'accord, la scama du rabbi, en fait, on va demander sur toutes les petites choses aussi. Et une heure après, je reçois un téléphone à Klein qui me dit le rabbi a répondu, Liknot Hanal, Shaat Ovomus. Achetez cette maison, on Shaat Ovomus. Rabbi, il me dit acheter. C'est pas bien loué. Le propriétaire, on lui a parlé, il m'a dit non, je ne suis pas vendeur, il n'est pas question de vendre, c'est uniquement le. Qu'est-ce que vous voulez? On réfléchit, on dit comme ça, on va aller lui dire qu'on voudrait faire une location-vente, c'est-à-dire une location avec une vente à terme. Comme ça, on obtenait de lui, il ne veut pas, et le rabbi lui dit on va faire comme ça. Il ne veut pas, la Emouna, tout ça. Donc, on va le voir. On prend rendez-vous, on dit voilà, on a l'accord du téléphone, on vient dans son bureau, on dit voilà, on est d'accord pour, on commence à essayer d'expliquer qu'on veut, vous savez, j'ai changé d'avis, je suis vendeur. Pourquoi? Je lui dis, je ne sais pas. Je vous ai dit que je ne voulais pas vendre. Maintenant, je ne sais pas ce qui va arriver. Uniquement en vendant. Enfin, lui, il n'a pas de prière à Khorchid, il n'a pas libre à vivre, donc il a dû obéir. Nous, si on avait vraiment la Amouna, on aurait venu le Khatri là, on dirait oui, vous voulez louer, mais nous, on achète. Vous savez que nous, ça, c'est une chose vécue. Alors, c'est pas terminé. Alors, d'accord, on achète, mais vous n'avez pas d'argent. Alors, j'ai dit comment vous savez. Il dit parce que je vois ce qu'il veut. Mais vous avez la volonté. Bon, on va essayer. Alors, on a dit, on va d'abord faire une location provisoire et on va acheter un appartement. Alors, il nous fait, comme c'est un architecte lui-même, il a son cousin avocat, il a le nom, il fait un papier. Et voilà, on fait une location, je dis, on fait une location d'un an. Il me dit non. Parce que si vous faites un an, après, je ne peux plus vous renvoyer, vous restez là, un bail, etc. Une histoire, je ne sais pas, je peux faire que 3 mois. 3 mois, c'est précaire. Pour un meublé, si comme ça ne marche pas, je vous jette. Sinon, je suis obligé de garder. Après, vous allez me dire, ça coûte moins parce que c'est un local habité, loué. Bon. Ah, bon, et pas le choix. Il est 3 mois. Il tape un papier, on vient chez lui, mais à condition qu'on lui amène les 3 mois de loyer d'avance. On lui amène les 3 mois de loyer d'avance. Et il nous donne le papier quand on sort une traque crème, il garde le papier. Il se prêtait à se tromper en 9 mois. Donc exactement ce qu'on veut. Et là, on dit, on va rien lui dire. Une heure après, il me téléphone. Hé, j'ai revenu, il y a une erreur, revenez vite. On a fait 9 mois, c'est 3 mois seulement. Non, non, c'est trop tard maintenant. Là, c'est 9 mois, terminé. On va payer, il n'y a pas de problème. 9 mois. Donc ça, c'était un mess, dommage. Parce qu'après, 3 mois, ils nous ont rejeté, parce qu'après, il y a eu... Donc on a fait. Maintenant, comment on va faire pour l'argent? Il faut acheter. Je vais vous donner un bracha, on va vivre, on va vous donner un bracha. Maintenant, on va arriver. Alors, il faut, pour faire un crédit, il faut avoir une caution. On vient d'arriver, personne ne connaît qui a une caution, les banques ne connaissent pas. Alors, il dit, tiens, le meilleur caution, ce sera le maire de Nice. À l'époque, c'était Jacques Médecin. Le maire de Nice, si lui, je prends une caution, la banque va prendre. Mais je ne le connais pas, dans l'hiver, je ne sais pas, je vais lui dire pour une caution. Alors, je vais voir le grand rabbin qui est dans la caution de la compagnie, je vais expliquer sa situation, voilà, lui, il faut prendre un rendez-vous, là, je suis. Alors, je ne connais pas. Après, on discutait parce qu'il était très proche du rabbi. Il dit, voilà, moi je veux venir, je prends un rendez-vous pour voir, pour demander une petite chose. Je vous présente, et vous, vous dites ce que vous voulez, mais je ne veux pas être moi votre caution. D'accord. On va le voir, et lui, il prépare un truc comme ça. Donc, il demande. Ouais. Après, il nous présente. Il nous présente, il dit, voilà. Et là, tout de suite, je sais pas pourquoi je pense que vous parlez dans le rêve. Je dis voilà, on a un local, on va faire un centre, tout ça, et il faut votre caution. Bon, pourquoi pas. Et on a eu l'accord verbal. On sort de son bureau. Je comprends. Moi, ce que je lui demandais, c'était pas grand chose. Il m'a dit non, c'était pas possible. Et autre chose, que c'était un truc qui se porte caution, garant, c'est-à-dire que la ville va payer si on ne paye pas. Et je ne comprends pas, c'était un S. On fait les papiers et la mairie, c'était voté à l'unanimité. 63 voix, même les communistes ont voté pour. J'étais étonné. On a eu la caution. Et à l'époque, c'était pas, c'était avant Mitterrand. Il y avait ce que vous appelez l'autorité de tutelle. C'est-à-dire que pour une mairie, pour qu'elle soit caution, il fallait que ce soit le préfet donne son accord. Et le préfet. Lui-même, il ne sait pas, ça passe par le TPG, c'est-à-dire trésorier, payeur général, qui voit les comptes, qui ont présenté un bilan. Et lui, il donne son accord. C'est comme ça que la caution marche pour aller à la banque. Donc on avait la banque et tout. Et on attendait l'accord du préfet. On attend. On reçoit un jour une lettre. Le TPG refusé. Pourquoi refusé? On va voir le préfet, parce que le TPG a vu qu'on n'avait pas la capacité de rembourser. Donc la mairie se porte caution, vous n'allez pas rembourser, ça va pas de problème. Le maire est gêné parce que oui, je l'ai bien voulu, mais j'ai pas l'impact. Je vais voir Kling, le rabbin, je vais écouter une fois un rendez-vous chez le père. On va faire la même chose, vous demandez le n'importe quoi. Moi, le rendez-vous chez le préfet, c'était Yudalef Nissan, le jour de l'anniversaire de ce jour-là, je devais aller chez le rabbi pour Pessah, pour être Yudalef Nissan sur le rabbin. Quand j'ai mis le rendez-vous pour Yudalef Nissan, je repoussais. C'est un bon signal. On arrive chez le préfet, chez Pierre le matin, Dieu de la vie, fin de carrière, préfet de la vie, préfet de la vie, préfet de la vie. Alors, Clint lui parle du problème, etc. Bon, on va voir. Et après, il me présente, pareil, c'est pas des préfets pareils. Il dit, monsieur le préfet, voilà, dans le ça, vous avez refusé. Alors, j'ai vu que c'était difficile. Il me dit, voilà, vous êtes agréable, je vais vous dire, change de tout, la formule, vous représentez ça à la mairie, parce que c'est une nouvelle formule. Si vous allez faire la nouvelle formule, ça va repasser chez nous, et moi, là, c'est très difficile. Alors, je lui ai dit, voilà, je suis une fois que ça va partir, c'est terminé. C'est la question, j'ai vu ce que faire. Dans le judaïsme, c'est marqué « Yesh connaît au l'amour de Shahachat ». Il y a un qui peut acquérir tout son monde spirituel, son monde futur, dans un seul instant. Vous êtes à la retraite, c'est la dernière action que vous allez faire. Faites une chose, vous allez voir, Dieu vous sera reconnaissant le premier jour pour la vie. Ça, c'est la honte, c'est pas ça. Par rapport à ça, le préfet, Moi, je pars comme ça. Je me dis, écoutez, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Bon. 15 jours après, je vais chez le rabbi, je lui demande une bracha, je reviens. Il me dit, j'ai reçu une lettre du préfet. La demande que je lui ai, qui lui, il a demandé, c'était refusé. Et lui, il a dit oui, c'est passé. Et j'avais pas le temps, je retourne chez le préfet, je retourne chez le TPG, je dis, voilà, j'ai la lettre du préfet. Il est fou, ce préfet. Comment il vous autorise? Nous, on a dit non. Ça, c'est le préfet, c'est pas moi. Je vais chez le préfet, chez le TPG, il met son tampon, je prends le papier, je vais chez le maire, je dis, voilà, le préfet a dit oui, le TPG a dit oui. Vas-y, vous êtes bien. Ben, au Hachem, on a pu avoir ce beau travail. Et puis il a eu de gros problèmes, et à chaque fois, bon, à chaque fois, c'est comme ça. Parce que le rabbi l'a dit, ça continue toujours. Donc tu as, que ce soit un architecte, ou un propriétaire, ou un préfet, ou un maire, tout ça, ils sont annulés, ils sont battus. Ils vont leur attendre d'acheter. On va sortir de la galette. Chaim, Chaim. C'est pas les préfets qui vont nous empêcher d'avancer. Chaim. Hein. Yemina Hashem Meima Yemina Hashem Safayim Yemina Hashem Meima Yemina Hashem Safayim. Je crois qu'on va Aïlan. Non, moi je dois continuer à travailler, mais je peux continuer. Internet marche encore ou non? Tout le monde allait dormir. Ça y est, on peut l'arrêter. Hein?